Chapitre 2. Rien de nouveau sous le soleil. Et j'ai reconnu que cela même était une vanité. L'Ecclésiaste. Edison, à ce mot, posa sur la table, auprès de l'Andréide, l'instrument lumineux qui suffisait à l'autopsie de sa créature, et, relevant le front, « Une comédie, mon cher Lord, dit-il, mais... est-ce que vous ne consentez pas à la jouer toujours avec l'original, puisque, d'après vos confidences mêmes, vous ne pouvez que lui cacher ou lui faire taire à jamais votre arrière-pensée, par politesse? Oh, qui donc serait assez étrange, sous le soleil, pour essayer de s'imaginer qu'il ne joue pas la comédie jusqu'à la mort? Ceux-là, seuls, qui ne savent pas leur rôle, prétendent le contraire. Tout le monde la joue, forcément. Et chacun avec soi-même. Être sincère, voilà le seul rêve tout à fait irréalisable. Sincère, comment serait-ce possible puisqu'on ne sait rien, puisque personne n'est vraiment persuadé de rien, puisque l'on ne se connaît pas soi-même. L'on voudrait convaincre son prochain que l'on est, soi-même, convaincu d'une chose, alors que, dans la conscience mal étouffée, l'on entend, l'on voit, l'on sent le douteux de cette chose. Et pourquoi? Pour se magnifier d'une foi d'ailleurs toute fictive, dont personne n'est dupe une seconde, et que l'interlocuteur ne feint d'admettre qu'afin qu'il lui soit rendu la pareille à toute heure. Comédie, vous dis-je. Mais si l'on pouvait être sincère, aucune société ne durerait une heure, chacun passant l'existence à se donner de perpétuels démentis. Vous le savez. Je défie l'homme le plus franc d'être sincère une minute sans se faire casser la figure ou se trouver dans la nécessité de la briser à ses semblables. Encore une fois, que savons-nous pour oser émettre une opinion sur quoi que ce soit qui ne soit pas relative à mille influences de siècles, de milieux, de dispositions d'esprit, etc. En amour, ah, si deux amants pouvaient jamais se voir réellement tels qu'ils sont, et savoir réellement ce qu'ils pensent, ainsi que la façon dont ils sont conçus l'un par l'autre, leur passion s'envolerait à la minute. Heureusement pour eux, ils oublient toujours cette loi physique inéluctable. Deux atomes ne peuvent se toucher. Et ils ne se pénètrent que dans cette infinie illusion de leur rêve, incarnée dans l'enfant et dont se perpétue la race humaine. Sans l'illusion, tout périt, on ne l'évite pas. L'illusion, c'est la lumière. Regardez le ciel au-dessus des couches atmosphériques de la Terre, à 4 ou 5 lieues seulement d'élévation. Voyez un abîme couleur d'encre, parsemé de tisons rouges de nul éclat. Ce sont donc les nuages, symboles de l'illusion, qui nous font la lumière. Sans eux, les ténèbres. Notre ciel joue donc lui-même la comédie de la lumière, et nous devons nous régler sur son exemple sacré. Quant aux amants, dès qu'ils croient seulement se connaître, ils ne demeurent plus attachés l'un à l'autre que par l'habitude. Ils tiennent à la somme de leur être et de leur imagination dont ils se sont réciproquement imbus. Ils tiennent aux fantômes qu'ils ont conçus, l'un après l'autre, en eux-mêmes, ces étrangers éternels. Mais ils ne tiennent pas plus l'un à l'autre tels qu'ils se sont reconnus être. Comédie inévitable, vous dis-je. Et quant à celle que vous aimez, puisque ce n'est qu'une comédienne, puisqu'elle n'est digne d'admiration pour vous que lorsqu'elle joue la comédie et qu'elle ne vous charme absolument que dans ces instants-là, que pouvez-vous demander de mieux que son Andréide, laquelle ne sera que ces instants figés par un grand sortilège? « C'est fort spécieux, » dit tristement le jeune homme, « mais entendre toujours les mêmes paroles, les voir toujours accompagnées de la même expression, fut-elle admirable? Je crois que cette comédie me semblera bien vite monotone. » « J'affirme, » répondit Edison, « qu'entre deux êtres qui s'aiment, toute nouveauté d'aspect ne peut qu'entraîner la diminution du prestige, altérer la passion, faire envoler le rêve. » De là, ces rapides satiétés des amants, lorsqu'ils s'aperçoivent, ou croient s'apercevoir, à la longue, de leur vraie nature réciproque, dégager des voiles artificielles dont chacun d'eux se paraît pour plaire à l'autre. Ce n'est même qu'une différence d'avec leurs rêves qu'ils constatent encore ici, et elle suffit pour qu'ils en arrivent souvent au dégoût et à la haine. Pourquoi ? Parce que si l'on a trouvé sa joie dans une seule manière de se concevoir, ce que l'on veut au fond de son âme, c'est la conserver sans ombre, telle qu'elle est, sans l'augmenter ni la diminuer, car le mieux est l'ennemi du bien, et ce n'est que la nouveauté qui nous désenchante. « Oui, c'est vrai, » murmura alors Evald avec un sourire pensif. « Eh bien, l'Andréide, avons-nous dit, n'est que les premières heures de l'amour immobilisé, l'heure de l'idéal à jamais faite prisonnière, et vous vous plaignez déjà de ce qu'elle ne pourra plus rouvrir ses inconstantes ailes pour vous quitter encore ? Oh, nature humaine ! Songez aussi, répondit le Révald en souriant, que cet agrégat de merveilles, étendu sur ce marbre, n'est qu'un assemblage, vain et mort, de substances, sans conscience de leur cohésion, ni du prodige futur qui doit s'en dégager. Vous pourrez troubler mes yeux, mes sens et mon esprit par cette magique vision. Mais pourrais-je oublier, moi, qu'elle n'est qu'un personnel ? Comment aimer zéro ? Me crie froidement ma conscience. Edison regarda l'anglais. « Je vous ai démontré, répondit-il, que dans l'amour-passion, tout n'était que vanité sur mensonge, illusion sur inconscience, maladie sur mirage. Aimer zéro, dites-vous, encore une fois, qu'importe si vous êtes l'unité placée devant ce zéro, comme vous l'êtes d'ores et déjà devant tous les zéros de la vie, et si c'est, enfin, le seul qui ne vous désenchante ni ne vous trahisse. Toute idée de possession n'est-elle donc pas éteinte et morte en votre cœur ? Je ne vous offre, et je l'ai bien spécifié, qu'une transfiguration de votre belle vivante, c'est-à-dire ce que vous avez demandé en vous écriant. Qui m'ôtera cette âme de ce corps ? Et voici que, déjà, vous redoutez à l'avance la monotonie de votre propre vœu réalisé. Vous voulez, maintenant, que l'ombre soit aussi changeante que la réalité ? Eh bien, je vais vous prouver à l'instant, jusqu'à l'évidence la plus incontestable, que c'est vous-même, ici, qui essayez, cette fois, de vous faire illusion. Car vous ne pouvez pas ignorer, mon cher Lord, que la réalité elle-même n'est pas aussi riche en mobilité, en nouveauté, ni en diversité que vous vous efforcez de le croire. Je vais vous rappeler que le langage du bonheur dans l'amour, ainsi que ses expressions sur les traits mortels, ne sont pas aussi variés qu'un secret désir de garder, quand même, votre déjà pensif désespoir vous inspire de le supposer encore. L'électricien se recueillit un instant, puis, éterniser une seule heure de l'amour, la plus belle, celle par exemple où le mutuel aveu se perdit sous l'éclair du premier baiser. Oh, l'arrêter au passage, la fixer et s'y définir, y incarner son esprit et son dernier vœu. Ne serait-ce donc point le rêve de tous les êtres humains ? Ce n'est que pour essayer de ressaisir cette heure idéale que l'on continue d'aimer encore, malgré les différences et les amoindrissements apportés par les heures suivantes. Oh, ravoir celle-là, toute seule. Mais les autres ne sont douces qu'autant qu'elles l'augmentent et la rappellent. Comment se lasser jamais de rééprouver cette unique joie, la grande heure monotone ? L'être aimé ne représente plus que cette heure perpétuellement à reconquérir et que l'on s'acharne en vain à vouloir ressusciter. Les autres heures ne font que monnayer cette heure d'or. Si l'on pouvait la renforcer des meilleurs instants parmi ceux des nuits ultérieures, elle apparaîtrait comme l'idéal de toute félicité réalisée. Ceci posé en principe, dites-moi, si votre bien-aimé vous offrait de s'incarner à tout jamais dans l'heure qui vous a semblé la plus belle, celle où quelque Dieu lui inspira des paroles qu'elle ne comprenait pas, à condition de lui redire, vous aussi, celle des vôtres qui, uniquement, ont fait partie constitutive de cette heure, croirez-vous jouer la comédie en acceptant ce pacte divin? Ne dédaigneriez-vous pas le reste des paroles humaines? Et cette femme vous semblerait-elle monotone? Regretteriez-vous enfin ces heures suivantes où elle vous sembla si différente que vous alliez en mourir? Ses paroles, son regard, son beau sourire, sa voix, sa personne même, telle qu'elle fut en cette heure, ne vous suffirait-il pas? L'idée même vous viendrait-elle de réclamer du destin la restitution de ces autres paroles de hasard, fatales ou insignifiantes presque toujours, des traîtres instants qui suivirent l'illusion envolée? Non. Celui qui aime ne redit-il pas à chaque instant à celle qu'il aime les deux mots si délicieusement sacrés qu'il lui a déjà dit mille fois? Et que lui demande-t-il sinon l'écho de ces deux paroles ou quelque grave silence de joie? Et, en effet, on sent que le mieux est de réentendre les seules paroles qui puissent nous ravir, précisément parce qu'elles nous ont ravis une fois déjà. Il en est de cela, tenez, tout simplement comme d'un beau tableau, d'une belle statue où l'on découvre tous les jours des beautés, des profondeurs nouvelles, d'une belle musique que l'on veut réentendre de préférence à de nouvelles, d'un beau livre que l'on relit sans se lasser, de préférence à mille autres qu'on ne veut même pas entr'ouvrir. Car une seule chose belle contient l'âme simple de toutes les autres. Une seule femme contient toutes les femmes pour qui aime celle-là. Et, lorsqu'il nous incombe une de ces heures absolues, nous sommes ainsi faits que nous n'en voulons plus d'autres et que nous passons notre vie à essayer, inutilement, de l'évoquer encore, comme si l'on pouvait arracher sa proie au passé. « Oui, soit, » dit amèrement le Révald. « Cependant, monsieur l'enchanteur, ne pouvoir jamais improviser une parole naturelle, toute simple, hein, cela doit glacer bien vite la bonne volonté la plus résolue. »« Improviser ?» s'écria Edison. « Vous croyez donc que l'on improvise quoi que ce soit ? Qu'on ne récite pas toujours ? Mais enfin, lorsque vous priez Dieu, est-ce que tout cela n'est pas réglé, jour par jour, dans ces livres de raison qu'enfant vous avez appris par cœur ? En un mot, ne lisez-vous pas ou ne récitez-vous pas toujours les mêmes prières du matin et du soir, lesquelles ont été composées une fois pour toutes et pour le mieux par ceux qui ont eu qualité pour cela ? Et qui s'y entendait ? Est-ce que notre Dieu, lui-même, enfin, ne vous en a pas donné la formule en vous disant « Quand vous prierez comme ceci », etc. Est-ce que, depuis bientôt 2000 années, toutes les autres prières sont autre chose que de pâles dilutions de celles qu'il nous a léguées ? Même dans la vie, est-ce que toutes les conversations mondaines n'ont pas l'air de fin de lettre ? En vérité, toute parole naît et ne peut être qu'une redite, et il n'est pas besoin de Adalie pour se trouver, toujours, en tête-à-tête avec un fantôme. Chaque métier humain a son ensemble de phrases, où chaque homme tourne et se vire jusqu'à la mort, et son vocabulaire, qui lui semble si étendu, se réduit à une centaine, au plus, de phrases type constamment récitées. Certes, vous n'avez jamais eu le souci ni pris le plaisir de calculer, par exemple, la somme d'heures qu'un perruquier de 60 ans, ayant commencé son métier à 18 ans, a dépensé à dire à chaque menton qui le rase « Il fait beau » ou « Vilain temps » pour engager la conversation, laquelle, s'il lui est répondu, roule 5 minutes sur ce sujet pour être automatiquement reprise par le menton suivant, et ainsi de suite, et recommencer le lendemain. Cela donne un peu plus de 14 années compactes de sa vie, c'est-à-dire la quatrième partie environ de la totalité de ses jours. Le reste est employé à naître, geindre, grandir, boire, manger, dormir et voter d'une manière éclairée. Que voulez-vous qu'on improvise, hélas, qui n'ait été débité déjà par des milliards de bouches ? On tronque, on ajuste, on banalise, on balbutie, voilà tout. Cela vaut-il la peine d'être regretté, d'être dit, d'être écouté ? Est-ce que la mort, avec sa poignée de terre, ne clora pas, Demain, tout ce parlage insignifiant, tout ce rebattu, où nous nous répondons en croyant improviser? Et comment hésiterez-vous à préférer, comme économie de temps, les admirables condensations verbales composées par ceux-là qui ont le métier de la parole, l'habitude de la pensée et qui peuvent exprimer à eux seuls les sensations de toute l'humanité? Ces hommes mondes ont analysé les plus subtiles nuances des passions. C'est l'essence que seuls ils ont gardée, qu'ils expriment en condensant des milliers de volumes au fond d'une seule page. C'est nous-mêmes qu'ils sont, quels que nous soyons. Ils sont les incarnations du Dieu Protée qui veille en nos cœurs. Toutes nos idées, nos paroles, nos sentiments pesés au carat sont étiquetés en leurs esprits, avec leurs plus lointaines ramifications. Celles où nous n'osons descendre, nous aventurer. Ils savent, d'avance, et pour le mieux, tout ce que nos passions peuvent nous suggérer d'intense, de magique et d'idéal. Nous ne ferons pas mieux, je vous assure. Et je ne vois pas pourquoi nous nous donnerions de la peine de parler plus mal en voulant nous en rapporter à notre inhabilité sous prétexte qu'elle est, du moins, personnelle, alors que ceci, vous le voyez, n'est encore qu'une illusion. Continuons donc l'anatomie de votre belle morte, répondit Lorévald après un pensif silence. Je me rends à votre discours.